Le débat éco du vendredi, Thomas Piketty. Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Il ne vous aura pas échappé, messieurs, que nous sommes en campagne présidentielle. Les candidats sont nombreux et si les questions, Thomas en parlait, identitaires ont occupé le débat ces derniers jours, de nombreuses propositions économiques sont déjà sur la table. Anne Hidalgo, par exemple, veut doubler sur 5 ans le salaire des profs. Arnaud Montebourg veut nationaliser les autoroutes, comme Marine Le Pen, qui veut, elle aussi, privatiser le service public de l'audiovisuel. On a l'augmentation du minimum vieillesse et des salaires chez Valérie Pécresse, le débat en cours sur la décroissance chez les Verts. Je ne peux pas tout citer, mais pour commencer, dites-nous Thomas, si le débat économique vous semble riche, de qualité, ou obnubilé, comme le disait Dominique Seux, par la mesure waouh qui fait qu'on tend l'oreille en se disant ah bah tiens là, il se passe quelque chose de nouveau.
Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui décoiffent. Enfin, la privatisation de l'audiovisuel, moi j'ai l'impression de revenir à l'ultralibéralisme des années 80. Jean-Marie Le Pen, à l'époque, voulait tout privatiser, pas seulement TF1. Bon, comme quoi, moi je pensais que ça avait disparu du paysage, mais c'est intéressant. L'augmentation très forte des salaires des enseignants, ça décoiffe aussi, mais je pense que pour le coup, c'est beaucoup plus pertinent et ça va être un vrai sujet.
Et on va en parler.
Et on va en parler. Mais de façon générale, je veux dire que là, pour l'instant, moi je reste un peu sur ma faim, et parce qu'on a, aussi des camps politiques qui ne savent toujours pas s'ils vont s'unir. On ne sait pas à droite combien il va y avoir de candidats. À gauche, on ne sait pas non plus combien il va y avoir de candidats. Voilà, l'union peut encore se faire à droite, à gauche. Donc tout ça prend beaucoup de temps et empêche le développement des programmes, des idées. Et voilà, j'espère que les uns et les autres vont accélérer pour qu'on puisse vraiment débattre du fond.
Vous êtes sur votre fin également, Dominique ?
Nous sommes d'accord avec Thomas sur ce point. La campagne économique n'a pas vraiment commencé. On a des mesures que vous avez données, que vous avez dit waouh. En fait, chacun des candidats pour l'instant essaye de faire le plein dans son propre camp et de proposer des idées ou des pistes qui vont séduire son propre camp. Donc il faut
Des marqueurs,
c'est pas le rouge qui tache, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc on a donc c'est un peu l'open bar à la fois financier et intellectuel. C'est vrai que quand on voit Michel Barnier, étonnamment, qui prend des libertés avec la tradition européenne qui est celle de son parcours, on voit des propositions dans ce sens-là. Donc l'idée, c'est d'exister et de marquer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de proposition intéressante, mais on a pour l'instant aussi la rencontre entre un contexte et une campagne. Le contexte, c'est évidemment des taux d'intérêt très bas qui permettent que pour la première fois, probablement depuis 1958, il n'y ait pas à ce stade de limite apparente à l'open bar.
Voilà, on sort de la période du quoi qu'il en coûte, où l'argent a coulé à flot sur l'économie, à part la Cour des comptes qui rappelle qu'il va falloir redescendre sur terre à un moment. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu la recommandation.
Oui, c'était une interview dans les Échos, donc elle a été entendue.
Enfin, a-t-elle eu un effet sur le débat public ? C'est la question que je vous pose. Est-ce que les candidats, Thomas, restent dans cette logique de l'argent magique ? Et si oui, est-ce grave, docteur ?
Alors, moi je pense que la Cour des comptes, et parfois peut-être aussi les Échos, oublient qu'il n'y a pas que la dette financière publique. Il y a la dette éducative, il y a la dette sociale, il y a la dette sanitaire, il y a la dette environnementale. Et ça, ce sont des dettes qui sont autrement plus redoutables à terme que la dette publique. Donc je pense qu'à ce stade, la priorité, c'est certainement pas de resserrer les vis. On a fait cette erreur en France et en Europe en 2011, 2012, 2013. On a voulu resserrer les vis beaucoup trop vite. C'est absolument pas la chose à faire. À ce stade, ce qui est très important, c'est d'investir dans l'avenir. Éducation, santé, environnement. Sur la question des enseignants, quand même, parce qu'il faut y venir, on a un vrai décrochage du salaire des enseignants en France. C'est-à-dire, si on regarde, on a fait beaucoup les comparaisons avec les Pays-Bas, l'Allemagne, qui sont très intéressantes. Mais je veux regarder simplement la France, comment c'était avant en termes de salaire des enseignants. Si on rassemble les données historiques, comme l'a fait Lucas Chancel de l'École d'économie de Paris et les amis en ligne, on constate qu'un professeur certifié, donc capétien de collège en début de carrière, au début des années 80, était à 2,3 fois le salaire minimum en entrée de poste. Aujourd'hui, il est à 1,2 fois le salaire minimum en entrée de poste. Vous prenez, ça c'est un professeur de collège, un professeur des écoles, donc en école primaire, vous êtes à 1,1 salaire minimum en entrée de poste. Donc vous avez, sur quelques décennies, un décrochage qui est considérable. Alors, tout n'est pas dans le salaire. Il y a aussi tous les problèmes de mécanismes d'affectation des enseignants. On va mettre plein de contractuels et de jeunes enseignants dans des zones difficiles. Donc la question juste du salaire moyen en tant que tel, et il y a beaucoup d'autres complexités. Mais quand même, quand vous avez un métier où on a des personnes qui ont des masters dans toutes sortes de disciplines difficiles et qu'on débute à 1,1, 1,2 SMIC, vous avez un problème. Et donc là, il y a un vrai sujet qui, je pense, devrait normalement dans cette présidentielle, on devrait en parler précisément.
On a aussi les classements de l'OCDE CDE ce matin dans les journaux sur la place de la France dans...
Justement, qui est très voilà, intéressante parce qu'elle apporte des éléments nouveaux. Juste un mot avant sur, de venir sur l'éducation, sur ce qui est ennuyeux. Évidemment, le contexte économique a changé et donc il y a une habitude, on a déjà parlé maintenant, et tout est possible, tout est ouvert. Mais ce qui serait quand même bon, c'est que chacun des candidats, quel que soit son camp, quelles que soient ses idées, nous disent est-ce que les dépenses nouvelles, je les finance par des impôts, par des économies ou par de la dette. Si c'est de la dette, il faut dire j'assume d'augmenter la dette et jusqu'à quand. Et je crains vraiment, et là nous sommes en désaccord, qu'il y ait une confusion entre ce que sont des dépenses récurrentes qui reviennent chaque année, qui s'inscrivent pour les dizaines d'années à venir, et les dépenses d'investissement. Sur la transition écologique, il n'y a pas de doute que, comme pour le Covid, c'est un défi qui est encore plus important naturellement, il n'y a pas de doute qu'il faille investir.
Et l'éducation, mais ce n'est pas de l'investissement, Dominique.
C'est évidemment un investissement, mais ce sont des dépenses qui reviennent. Et je voudrais simplement dire que sur l'éducation,
aussi, enfin, là, continuer,
ce qui, non mais ce qui est ennuyeux sur l'éducation, dans les propositions qu'on a, c'est évidemment un sujet majeur et c'est bon qu'il vienne
c'est
dans la campagne.
Anne Hidalgo qui l'a mis ce sujet brutalement
sur la table
en disant.
C'est très bien qu'il vienne dans la campagne.
Doublons le salaire des profs sur 5 ans.
C'est étrange de parler uniquement des salaires et non pas de ce qui se passe en face, c'est-à-dire des classements PISA sur le niveau des élèves, sur le niveau du système éducatif dans son ensemble. Et c'est un peu bizarre de ne pas dire ce qu'on met en face d'une augmentation des salaires. Alors sur les salaires eux-mêmes, il faut donner un point, vous avez cité le CDE. C'est très intéressant ce qui a été publié hier, je ne sais pas si vous avez jeté un œil.
Le classement des salaires dans 36 pays.
Ça contredit un peu ce qui est dans le débat public aujourd'hui. C'est-à-dire que l'OCDE, pour la première fois, a regardé les salaires effectifs. C'est-à-dire toutes les primes, indemnités, des agrégés, etc. Et on s'aperçoit que les salaires ne sont pas plus élevés que les autres, mais qu'ils sont désormais en France, dans l'éducation, en dehors des professeurs des écoles, au-dessus de la moyenne de l'OCDE et de l'Union européenne.
Vous incluez des pays beaucoup plus pauvres en Europe de l'Est, là, la moyenne.
Au-dessus.
Il faut comparer aux Pays-Bas, à l'Allemagne.
Au-dessus. Non, mais, dans le débat public, c'est imposé ces dernières années que c'était en dessous de l'OCDE.
C'est au-dessus
de l'OCDE.
Non, mais l'OCDE, les pays d'Europe de l'Est qui sont deux fois plus pauvres que la France.
C'était considéré comme en dessous de l'OCDE. C'est au-dessus de l'OCDE. Donc on est quand même déjà dans quelque chose de différent.
Comparons à la Bulgarie, si vous voulez, mais c'est pas
vraiment. Un point de réaction, Thomas Piketty, à ce que vient de dire Dominique, face à toute nouvelle dépenses, il faut dire comment on la finance.
Non, mais les statistiques, quand elles disaient que c'était en dessous de la moyenne de l'OCDE, étaient utilisées par tout le monde. Donc quand ça revient au-dessus,
mais l'OCDE,
regarder.
Vous savez, il y a le Mexique, la Bulgarie, l'Allemagne, c'est très vaste l'OCDE.
Ils veulent devenir le monde entier.
Oui, mais il y a aussi le Mexique, la Bulgarie.
Bon, en face d'une dépense, il faut savoir comment on la finance. Juste, s'il vous plaît, la proposition d'Anne Hidalgo, Jean-Michel Blanquer l'a chiffrée à 150 milliards sur 5 ans. Qu'en pensez-vous, Thomas Piketty?
Il y a eu un certain nombre de désintox qui ont dit qu'il avait eu la main un peu lourde sur 150 milliards, qu'on n'en est pas là. Vous savez, deux choses. D'abord, dans l'immédiat, je pense que la priorité, c'est certainement pas d'augmenter les impôts. C'est-à-dire, quand on a des taux d'intérêt à 0%, effectivement, il faut emprunter, il faut investir, et on prépare l'avenir en investissant dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement. Alors ensuite, quand le jour où les taux d'intérêt remonteront, parce que ça finira un jour par arriver, honnêtement, personne ne sait très bien quand, mais le jour où les taux d'intérêt remonteront, Alors là, effectivement, il sera temps de mettre à contribution plutôt les plus favorisés. Juste pour citer un exemple, parce que là, Jean-Michel Blanquer nous dit 150 milliards, vous vous rendez compte, c'est terrible. Vos collègues du magazine Challenge, dont vous respectez le classement sur les 500 plus grandes fortunes de France, a chiffré l'évolution du montant total des 500 plus grandes fortunes de France comme étant passé de 200 milliards en 2010 à 700 milliards en 2001. Donc 500 milliards d'enrichissement. Si simplement 30% de cet enrichissement avait été payé en impôts, ça financerait déjà les 150 milliards dont Jean-Michel Blanquer nous explique qu'ils sont impossibles à financer. Donc vous savez, de l'argent, il y en a. Et dans l'instant, la priorité, avec des taux d'intérêt à zéro, d'un point de vue économique, c'est certainement pas de resserrer la vis budgétaire. Il y a des défis structurels sur l'éducation, sur la santé, sur nous préparer au changement climatique, investir dans la rénovation des logements. C'est pas du tout le moment d'essayer de faire peur à tout le monde et de resserrer la vis.
un mot, je le citais tout à l'heure, sur la proposition faite donc par Arnaud Montebourg et Marine Le Pen de privatiser les autoroutes. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a fait valoir, un, que ça coûterait très cher, et deux, que le droit l'interdisait. Est-ce, selon vous, Dominique, l'archétype d'une mesure d'affichage, ou faut-il y regarder de plus près ?
Les contrats d'autoroutes, de concession des autoroutes, il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, ont été manifestement mal négociés. Et l'État s'est retrouvé.
Ça, c'est moi qu'on puisse dire.
L'État s'est donc c'était Dominique de Villepin à l'époque s'est retrouvé piégé. Alors que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, mais qui n'avait pas été anticipé par. Il y a deux choses qui sont passées. Il n'avait pas été anticipé que les taux d'intérêt baisseraient comme ça. Et donc quand dans les contrats ont été calculés, anticipés les remboursements des investissements faits par les concessions d'autoroutes, ben évidemment avec la baisse des taux d'intérêt, ils se retrouvent fort heureux. Je ne sais plus quelle est la fable de la Fontaine là-dessus. Et donc, mal négocié. Et le deuxième point, c'est que les rapports de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence, etc., ont dit depuis des années qu'il y avait, en filigrane, c'est écrit, que les compétences au sein de l'État au moment de la négociation étaient peut-être... Il y avait un peu de déséquilibre entre les compétences du côté des concessionnaires et du côté de l'État. Pour résumer, l'État ne savait pas très bien combien coûte la construction d'un kilomètre de bitume. Et il s'est fait peut-être un petit peu, voilà.
Bon, mais alors, privatiser.
Alors, privatiser.
Une fois qu'on a le bitume.
Privatiser. Non, nationaliser.
Nationaliser. Excusez-moi.
Ça, c'est audiovisuel.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Non, nationaliser.
Alors, nationaliser, Dominique.
Nous sommes dans un pays de droit et là aussi, il y a des contrats. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça coûterait extraordinairement cher. J'ai vu d'ailleurs que la proposition de Marine Le Pen aboutirait, si j'ai bien compris, à donc dépenser 35 à 40 milliards pour racheter aux concessionnaires, et ça aurait pour conséquence de baisser de 10 à 15% les péages autoroutes. Donc je suis légèrement étonné, ça ne me paraît pas très sérieux. En revanche, qu'à chaque renouvellement de concession, il y ait une négociation ferme, mais beaucoup de ministres ont essayé.
Nationalisation, Thomas Piketty.
Écoutez, il n'y aurait pas fallu privatiser. Vous savez, c'est le même problème que sur l'aéroport de Paris, finalement, qui a été repoussé. Non, je pense que non. Je pense qu'en fait, ce qu'on a beaucoup fait depuis 20-30 ans, malheureusement, c'est de privatiser beaucoup d'actifs publics plutôt que de faire contribuer ceux qui auraient dû contribuer aux charges publiques. Finalement, on a transféré des actifs publics plutôt que de faire payer des impôts aux personnes qui avaient les moyens de payer des impôts. Et c'est un mouvement de dépérissement de la puissance publique qui est extrêmement néfaste.
Mais il est irréversible
le problème de droit est une vraie question, mais des fois il faut changer le droit. C'est-à-dire, je prends un autre exemple sur des questions de propriété des entreprises. Si aujourd'hui on avait une loi en France qui, comme en Allemagne, donnait la moitié des sièges dans les conseils d'administration des entreprises aux salariés, c'est tout à fait possible que certains du côté du Conseil constitutionnel diraient: compte tenu de la façon dont le droit de la propriété est évoqué dans le bloc de constitutionnalité française, ça ne colle pas. Sauf que, en Allemagne, en l'occurrence, il y a eu un changement de la constitution en 1949 qui a permis de définir la propriété comme impliquant des parties prenantes, des salariés. Donc c'est juste pour dire, c'est différent de l'exemple des autoroutes, mais que le cadre juridique, parfois, il doit aussi évoluer par rapport aux réalités, parce que sinon on se retrouve coincé par des bêtises, des engagements qui ont été pris.
Je vous ai donné
l'exemple de l'Allemagne, ça a évolué dans le bon sens.
Je dis que c'est plutôt les conditions c'est la façon dont ça s'est passé qui pose problème. Je pense néanmoins que le système autoroutier est d'une qualité nettement supérieure à ce que parfois le système, s'il était géré entièrement par l'État.
Alors ça, j'aimerais bien voir sur quoi vous vous fondez pour dire ça.
Je roule un peu.
Comme ça, vous roulez, vous voyez que le privé est efficace. Non mais, vous n'êtes pas idéologue pour un sou. C'est vraiment...
C'est une enquête de terrain. Représentatif, ou peut-être.
Intéressant.
Merci à tous les deux. Merci Dominique, Thomas Piketty. À vendredi prochain. France Inter.